Dans cette nouvelle chronique, Maël Cordeau, le président de l'association Braise Europe Finistère, s'est intéressé à la presse dans l'Union européenne, aux médias. Il a choisi ce sujet en raison d'un fait passé inaperçu, mais qui soulève beaucoup de questions. Et il va nous expliquer tout ça. Maël, bonjour.
Bonjour. Effectivement, récemment, un média a déposé en ligne un communiqué qui annonce la fin de l'émission intitulée 27, diffusée sur Arte le dimanche en début de soirée. Le titre de l'émission fait référence aux 27 États membres de l'UE, puisqu'il s'agit d'un magazine exclusivement consacré aux sujets de société en Europe. C'est la journaliste Nora Amadi qui l'anime et qui invite et interroge divers experts pour en discuter. Si cette annonce n'a pas encore été confirmée par Arte, elle est un coup dur pour la place du sujet européen dans les médias français. Nous y reviendrons, mais la France est le dernier pays du classement lorsque l'on demande aux Européens s'ils ont entendu parler d'informations européennes, que ce soit à la télé, dans la presse écrite ou encore à la radio. Pourtant, la chaîne franco-allemande Arte est le média le plus européen de France, alors l'annonce de la suppression de l'un des derniers magazines du sujet pose vraiment question.
Aujourd'hui, on s'interroge aussi sur la liberté de la presse, puisque depuis le 24 février dernier, la propagande de guerre est revenue sur le devant de la scène. Les journalistes doivent composer avec cette dimension. Les fake news vont bon train. Comment se porte la presse dans l'Union européenne ?
Le sujet est très vaste, puisqu'il répond aux diverses dynamiques nationales, et aussi à l'essor fulgurant des plateformes en ligne qui souhaitent proposer une alternative aux médias dits « mainstream ». Désolé pour cet anglicisme, mais il n'y a pas trop d'équivalent. Les médias dits « mainstream » désignent les médias d'information à grande échelle, on peut aussi les appeler « médias de masse ». Et de manière générale, en Occident et dans les pays développés, les citoyens se déclarent méfiants à l'égard de l'information diffusée par les médias. Par exemple, en France, en 2021, cette proportion atteignait 55%. Et le deuxième sentiment à l'égard de l'information, toujours en France, est celui de la colère à 18%. À titre de comparaison, prenons un autre pays, cette fois hors d'Europe, la Corée du Sud, qui est un pays hautement démocratique, libéral et qui assure le pluralisme médiatique, et qui pourtant fait face à l'une des plus grandes défiances, pas méfiance, défiance au monde à l'égard de l'information et des médias. Les Sud-Coréens s'informent majoritairement sur YouTube et les médias d'information en ligne. Aussi, d'après le rapport annuel mondial de l'ONG Reporters sans frontières, relatif à la liberté de la presse, le continent européen se porte relativement bien puisqu'en moyenne, il se situe au sommet du classement. Par exemple, 9 des 10 premiers pays sont européens. Mais il faut aussi reconnaître que ce rapport met en exergue des chutes impressionnantes dans le classement. C'est notamment le cas des Pays-Bas qui sont passés de la 6e à la 28e place. Cela est particulièrement lié à l'assassinat d'un journaliste sur le sol néerlandais, tout comme un journaliste grec dans son propre pays aussi. On le constate depuis quelques temps déjà, il y a une véritable défiance envers les journalistes. Cette défiance qui, lorsqu'elle atteint son apogée, elle se traduit en acte d'une violence extrême qui vient régulièrement des partis et groupements politiques extrémistes et radicalisés.
Même en Bretagne, on n'est pas à l'abri d'attaques envers la presse. Maëlle, vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé récemment à Carhaix ?
Effectivement, depuis plusieurs mois, le journal de Carhaix, le Poer, recevait des menaces de mort, notamment par courrier, avec une apogée au mois de février et une alerte à la bombe dans leurs locaux. France 3 Bretagne avait apporté son soutien au journal et s'est aussi fait menacer. D'après l'enquête en cours, ces menaces viennent de l'extrême droite, au plus haut point opposé à l'accueil des personnes migrantes sur le territoire. Cette affaire fait aussi écho à ce qui se passe dans la commune de Callac depuis plusieurs mois, ou encore récemment dans la commune de Saint-Brévin où le maire a vu sa maison se faire incendier. On s'écarte du sujet, mais il est important de rappeler qu'il existe des sujets d'actualité qui passionnent et qui poussent au pire, notamment la mise en danger d'autrui et ici des journalistes. Si l'on en revient au classement de Reporters sans frontières, la France se porte mal, notamment en matière de protection des journalistes. Pas besoin de revenir sur les attentats de 2015 et les multiples journalistes actuellement sous protection policière, les multiples fatwas qui sont des déclarations de mise à mort instaurées par le régime des mollahs en Iran, ou encore les journalistes de la société Première Ligne attaqués à la feuille de boucher en plein Paris en 2020. Le rapport de RSF indique qu'en France tout est mis en place pour favoriser la liberté de la presse, mais que les menaces sont telles que le pays ne peut se positionner qu'à la 26e place du classement. Il y a d'ailleurs une autre cause qui explique cela. Elle est d'ailleurs directement liée au climat social de la France depuis les manifestations des Gilets jaunes, où le schéma du maintien de l'ordre a nettement évolué et les journalistes et reporters font l'objet de nombreuses attaques physiques lors des manifestations. Aujourd'hui, les techniques de maintien de l'ordre en manifestation sont remises en question, parce que les journalistes sont parfois pris dans la masse des violences. On pourrait aussi parler des responsables politiques français qui accusent, voire frappent, les journalistes. La France fait donc face à deux dynamiques. Il y a la première où il existe des mécanismes de protection de la liberté de la presse, et la deuxième dynamique où l'opinion publique remet en cause la légitimité de l'information et les groupuscules ultra-violents qui passent à l'acte.
Et dans le reste de l'Europe, Maël Cordeau, comment est-ce que ça se passe ?
Si on prend le cas de la Pologne, c'est une autre affaire. Ici, le gouvernement utilise les médias comme moyen de propagande et c'est complètement assumé, en particulier en ce qui concerne les sujets sensibles. Pourtant, la liberté de la presse et le droit à l'information sont inscrits dans la Constitution. La Pologne dispose d'ailleurs d'une vaste proposition de médias, mais l'État les rachète petit à petit. Par exemple, récemment, l'État a acquis 20 des 24 journaux régionaux. Les médias privés sont eux aussi touchés par des tentatives d'ingérence ou encore l'instauration de taxes spéciales sur les revenus publicitaires qui sont en fait les principales sources de financement des médias privés. Il y a d'autres États qui s'inscrivent dans cette dynamique de ciblage et d'affaiblissement de ces médias, c'est le cas de la République tchèque. De son côté, il y a aussi la Slovaquie qui donne une grande importance au journalisme d'investigation, ce qui lui vaut régulièrement des attaques directes du gouvernement envers ses journalistes et les médias. Un autre élément intéressant en Slovaquie est la rencontre entre la société relativement conservatrice et la tendance globale libérale des médias, qui rend l'investigation journalistique, notamment pour les femmes, très difficile lorsque les sujets sont en lien avec le harcèlement sexuel. Pour toutes ces informations, c'est encore le rapport annuel de Reporters sans frontières qui est très éclairant. Avant de poursuivre ce tour d'Europe, de la liberté de la presse et de regarder chez les pays scandinaves, il paraît essentiel de consacrer quelques mots à la Hongrie où la situation dans l'Union européenne est la plus déplorable. Viktor Orban, le premier ministre du pays, mène une politique d'asservissement des médias privés. Cela se passe essentiellement par le biais économique. Les médias pro-gouvernement Orban sont favorisés en matière de financement, tandis que les autres, affaiblis, sont rachetés par des proches du pouvoir et les lignes éditoriales sont réajustées. Cette stratégie de contrôle de la presse est une véritable réussite pour le gouvernement hongrois qui aujourd'hui a à sa botte près de 80% du paysage médiatique. Il faut aussi parler des dernières élections hongroises où l'opposition a clairement été muselée par les médias avec un temps de parole considérablement inférieur à celui du vainqueur dont on connaît le nom.
Et pour les États chez qui ça se passe mieux ?
Allons voir du côté de la Finlande, le cinquième État du classement, qui propose un modèle complètement différent. En effet, la liberté de la presse existe bel et bien et elle est effective et s'exerce sans souci. Il existe d'ailleurs une grande diversité de médias indépendants du pouvoir. Le premier radiodiffuseur du pays est tout de même détenu par le Parlement, un peu comme en France où le Sénat détient la chaîne parlementaire LCP et Public Sénat. La Finlande est aussi l'État où il y a le plus de médias par habitant, et les médias sont essentiellement privés et sont aujourd'hui quand même menacés par l'information gratuite disponible sur les réseaux sociaux. Plus au sud, on sort des pays scandinaves, au Portugal, qui est 7e du classement, la presse, elle, est protégée par le gouvernement. Aujourd'hui, ce sont les mouvances d'extrême droite aussi qui deviennent menaçantes dans le pays. De plus, comme le reste de l'Europe, la vente de journaux papier est en baisse et cela a de grosses conséquences sur les revenus des sociétés journalistiques qui sont pour le moment compensés, mais qu'en légère partie par les abonnements numériques.
Au travers du sujet de la presse, Braise Europe Finistère souhaitait en fait aborder une question qui lui tient à cœur, à savoir la part d'informations relatives à l'Union européenne et à l'Europe dans les médias français et plus particulièrement les journaux télévisés.
Effectivement, la Fondation Jean Jaurès, en partenariat avec l'INA, ont publié une étude qui couvre la période 2015-2020 sur cette question de la visibilité des sujets européens dans les journaux télévisés. Partant du postulat que les JT sont la première source d'information des Françaises et des Français sur cette période, seulement 3,6% des programmes sont consacrés à l'Union européenne. Nous parlions d'Arte en début d'émission. Si on enlève Arte de l'enquête, les 3,6% chutent à 2,5%. En effet, Arte est le seul média champion dans ce domaine, mais le qualificatif de champion est quand même à relativiser puisque la présence des sujets européens reste bien en deçà des enjeux. Ces chiffres soulèvent plusieurs interrogations. La première est que la France est un État membre et fondateur de l'Union européenne. Alors pourquoi les médias, au moins publics, n'informent-ils pas plus au sujet d'un thème central et moteur de la France, dans le sens où la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans l'UE et inversement? Aussi, on sait que le Brexit est en grande partie lié à une grande campagne de désinformation sur ce qu'est l'Union européenne, et alors quand on voit aujourd'hui l'état du Royaume-Uni, il y a de quoi s'inquiéter. Enfin, l'étude couvre la période électorale des européennes 2019, et là, la très faible proportion d'informations européennes sur la même période interroge notamment quand la France est le seul pays européen où l'extrême droite a gagné ce scrutin en 2019. Mais il y aurait quand même de quoi se réjouir puisque l'étude montre une légère augmentation de 0,7% entre 2014 et 2020 de la part des sujets européens dans les JT français en période électorale, mais rappelons que ce chiffre ne dépasse tout de même pas les 5%. Autre chiffre à retenir pour la France, c'est au sujet de la pandémie de Covid-19, alors que les sujets européens n'ont que très peu de place. 58% de cette petite place était occupée uniquement par le sujet de la pandémie en 2020.
Mais alors comment est-ce qu'on peut s'informer en profondeur sur l'Europe et sur l'Union européenne ?
Il y a diverses manières. Si la réponse à la question précédente était très critique, il convient de saluer des efforts notamment de la part du service public. Aujourd'hui, il existe diverses émissions consacrées aux sujets européens. On peut citer d'abord « Nous les Européens » qui traite avant tout de sujets de société dans les autres États membres. Il y a aussi « La faute à l'Europe » une fois par semaine le mercredi sur France Télévisions qui permet de débattre autour des sujets d'actualité. Et il y a aussi « Arte » qui pour le moment a son magazine 27 qui est diffusé lui le dimanche soir. Par ailleurs, la directrice de France Télévisions a annoncé en 2021 l'octroi de primes au rédacteur en chef du service public qui augmenterait le taux de présence du sujet européen. Mais il y a de quoi se poser de nouvelles questions sur ces méthodes. Ne serait-il pas plus simple juste de réglementer la diffusion des informations européennes ? Il existe aussi d'autres moyens de s'informer, notamment en ligne. Il y a Euractiv, qui traite de l'actualité des 27 États membres. Il y a aussi des journaux associatifs beaucoup plus spécifiques, comme le Courrier d'Europe centrale ou encore le Courrier des Balkans. Et en matière de médias radiophoniques, il existe Euradio, basé à Nantes, qui là est spécialiste des questions européennes. Enfin, il y a aussi des journalistes comme Audrey Vuettaz qui propose des podcasts produits bénévolement. Là, son podcast est hebdomadaire et il permet de décrypter des sujets européens. Il s'appelle Trait d'Union.
Que fait l'Union européenne en matière de liberté et de qualité de l'information et surtout quelles sont ses compétences en lien avec le sujet, Maëlle Cordeau ?
En 2014, la Commission européenne décide de créer l'ERGA, le groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels, où chaque État membre est représenté par son groupe d'autorité de régulation des médias au sens large. En France, c'était l'ancien CSA, aujourd'hui devenu l'ARCOM. Ce régulateur européen permet de mener une veille collective du monde de l'audiovisuel et aujourd'hui du numérique, et de réagir en conséquence en faisant des propositions à la Commission européenne. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est produit à l'automne 2022, lorsque la Commission européenne a proposé un règlement sur la liberté des médias. Pour rappel, un règlement s'applique dans les États membres dès lors qu'il est voté et adopté par les institutions européennes, dont le Parlement européen. Les règlements sont contraignants, et un exemple récent est celui du RGPD sur la protection des données des utilisateurs en ligne. Ce nouveau projet de règlement sur les médias prévoit d'augmenter la protection de la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias. Cela prend aussi en compte le soutien vers l'indépendance financière par les États membres des médias d'intérêt général. Il y a également un objectif de transparence, qu'il s'agisse des propriétaires ou des nominations dans les sociétés de médias, ces éléments devront être rendus publics. On peut aussi citer la lutte contre l'espionnage des journalistes via les logiciels espions. Récemment, vers la même période, en automne 2022, il y a eu un autre règlement qui lui est déjà en cours d'application puisqu'il a été adopté par les institutions, c'est le DSA, ou Règlement sur les marchés numériques qui vise à protéger les utilisateurs européens et leurs droits fondamentaux, notamment en matière de liberté d'expression, et surtout augmenter le contrôle des grandes plateformes numériques au regard de la manipulation de l'information et de la désinformation. Enfin, pour conclure, Avec toutes ces informations, il s'agit de bien comprendre et mesurer l'hétérogénéité du paysage médiatique européen, notamment en matière de liberté d'expression.
Merci Maël Cordeau. Et quand on s'intéresse à l'Europe, on peut consulter le site internet ou les réseaux numériques de Braise Europe Finistère. Et on peut aussi réécouter cette chronique et toutes les autres sur le site internet de Radio Évasion.